Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Plein cœur de l'été. Je me souviens encore il y a... Dans quelques jours, ça fera 2 ans qu'on est arrivé. J'ai pu prêcher le premier dimanche où j'étais là. Je me souviens de tout ce que ça pouvait représenter de stress et d'inconfort, même d'être amené à prêcher dès le premier jour. Ça, c'était pas trop mal placé, mais c'était... des souvenirs forts, et c'est une joie de pouvoir vivre ce dernier culte ensemble pour Barbara et moi, en ayant cette opportunité de pouvoir prêcher à nouveau. Et c'est vrai que c'est une période un petit peu... On a les choses plein la tête en ce moment pour nous, à la fois les souvenirs de ces 2 années qu'on a partagées parmi vous, et puis aussi pour tout ce qui vient pour nous pour la suite, pour ceux qui ne le sauraient pas en... On a le projet de démarrer une implantation d'église dans le sud de Paris à partir de septembre, et c'est tout un tas de questionnements. On est content d'avoir une équipe, on a une vision pour ce qu'on croit être la volonté de Dieu pour ce projet, et puis après on a rien d'autre. Donc c'est plein de questions, comment ça va se passer en équipe, comment ça va se passer pour atteindre les personnes à qui on veut partager l'évangile, comment... On va peut-être trouver un local et toutes les questions qui peuvent être associées avec le fait d'implanter une église. Et c'est vrai que lorsqu'on y réfléchit, on peut se dire à un moment ou à un autre, pourquoi, des fois tout simplement, pourquoi s'embêter, pourquoi tant d'incertitudes, pourquoi se remettre dans tous ces changements et tout ce que ça implique. On pourrait se trouver un coin tranquille et préparer, s'installer de manière stable pour la suite. Sur le long terme, mais ça m'a amené à me souvenir de ce que ça implique de suivre Jésus. Alors non pas que, très franchement, on n'a pas à se plaindre et n'allez pas imaginer que c'est une mission incroyablement difficile dans laquelle on s'engage, mais néanmoins ça m'a amené à me souvenir de ce que ça implique de suivre Jésus et de ce que Jésus nous rappelle et nous met en garde sur le fait que si nous voulons marcher à sa suite, le servir, entrer dans sa mission... Ça implique une certaine instabilité, des fois un certain inconfort, très souvent une grande incertitude, et que tout ça fait partie, non pas des accidents, des problèmes, mais bien de la manière dont Dieu nous appelle. C'est pas un malentendu, il n'y a pas une erreur dans le programme. Quand Jésus nous appelle à le suivre, ça implique un certain nombre de choses de ce type-là. Et je voudrais qu'on puisse y réfléchir un petit peu ce matin, de savoir, mais... Qu'est-ce que ça représente de suivre Jésus? Pour ceux d'entre nous qui nous définissons comme chrétiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Quel est le risque encouru, si je peux me permettre? N'allez pas imaginer que c'est un enjeu de pasteur, si je parle de nous, notre expérience en ce moment de nous projeter vers une implantation, c'est notre réalité maintenant, mais je crois que c'est absolument vrai pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens sont des disciples, c'est-à-dire que nous suivons Jésus et que nous le suivons là où il nous emmène. Et ça peut impliquer un certain nombre de choses. Alors on va voir un certain nombre de textes bibliques ce matin. Je sais, on est au cœur de l'été, mais je compte sur vous pour me suivre pendant les... En général, la blague des pasteurs, c'est de dire dans les 2 heures qui viennent, de me suivre dans l'ensemble de ces textes. Mais... comme le rappelait Samuel il y a quelques semaines, l'attente première des chrétiens le dimanche, c'est que ça se finisse à l'heure. Alors nous essaierons de terminer à l'heure. Blague à part, on va voir un certain nombre de textes qui parlent de ce que c'est être disciple. Et je voudrais qu'on commence dans le livre des Actes. Au début du livre des Actes, on voit les premières persécutions. On voit que dès le début, quand les disciples commencent à marcher dans les traces de leur maître, ça implique des oppositions. Si on va pas reprendre tout le texte, mais... En acte 3, on a Pierre et Jean qui rencontrent un paralytique, qui le guérissent au nom de Jésus. Et là, ça attire l'attention autour d'eux. Ils en profitent de cette attention pour dire, mais c'est pas nous qui avons guéri ce paralytique, c'est bien ce Jésus que vous avez crucifié, qui est ressuscité, et c'est lui qui l'a guéri. Alors forcément, en particulier pour les autorités de l'époque, c'était pas un message qu'ils voulaient entendre, de savoir que c'était eux qui avaient condamné celui qui était ressuscité. Et donc, quand on arrive au chapitre 4 du livre des Actes, les apôtres se retrouvent à comparaître devant les autorités juives. Ils sont accusés justement de ce témoignage-là et eux sont fermes. Ils maintiennent que c'est parce que Jésus est ressuscité qu'ils peuvent faire ces miracles-là, et que c'est bien ces autorités juives qui sont coupables d'avoir mis à mort le Messie de Dieu, celui qui était envoyé par Dieu. Et donc on arrive à la fin de cet échange, en acte 4, verset 18. Acte 4, verset 18. Là-dessus, ils les firent rappeler, donc c'est les autorités juives, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-même, est-il juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Et sur ce, les apôtres sont relâchés, et puis on a une espèce de réunion de prière qui est organisée suite à ce procès éclair. Et donc quelques versets plus loin, au verset 23, donc on est toujours en Actes, chapitre 4, verset 23, on a une description de leur sujet de prière dans ces circonstances-là. Acte 4, verset 23. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu en disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de nos ancêtres, de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et le peuple d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. » Écoutez bien la fin de cette prière au verset 29. « Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons et des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler et sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est une réunion de prière qui a dû être mémorable pour eux et pour nous. Dans le contexte, ils viennent de faire face à ceux qui ont condamné leur maître, ceux qui ont amené leur maître à être crucifié. Et eux-mêmes accusent leur juge, on pourrait dire. Ils leur disent, mais c'est vous qui avez tué le Messie de Dieu. Et alors qu'ils sont interdits de témoigner, eux disent, non, on va continuer à témoigner. On ne peut pas s'arrêter. Dieu nous a dit de témoigner de ce qu'on a vu et entendu. Nous allons continuer. Alors imaginez un peu, mettez-vous un peu à leur place. Parce que des fois, on peut être dans le stress, dans la situation, un peu faire les malins et dire non, nous on va suivre Dieu et on va faire ce qu'il faut et on va continuer à accomplir sa volonté. Mais vous rentrez chez vous, vous vous retrouvez en réunion de prière, c'est quoi votre sujet de prière que vous apportez devant Dieu? À l'aide! Viens me secourir! J'ai pas envie de finir sur la croix. C'était ça l'enjeu pour eux, c'était presque la suite naturelle des choses. Ils étaient en train de faire la même chose que ce que Jésus avait fait, devant le même tribunal, et il y avait vraiment un enjeu de vie ou de mort pour eux. Et qu'est-ce que eux demandent? Alors d'abord, ils rappellent la toute-puissance de Dieu. Ensuite, ils rappellent le plan de Dieu et dire que c'est le Messie, Jésus, qui est opposé. Toutes ces persécutions, elles sont contre le Messie, et eux ne vivent cette persécution que parce qu'ils sont les disciples de Jésus. Et ensuite, ils font cette demande au verset 29 et 30. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons et des miracles et d'autres signes en ton nom, au nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont simplement deux demandes, de pouvoir annoncer avec une pleine assurance la parole de Dieu et deux, que cette annonce de la parole de Dieu soit accompagnée par des miracles, par des signes qui confirment qu'ils sont bien envoyés par Dieu. Les apôtres n'ont pas du tout l'air troublés de la situation. Ils n'ont pas l'air de se demander « Mais pourquoi on est persécuté? Pourquoi il y a tant d'opposition ?» Ils ont l'air de trouver ça entièrement normal. Et la seule chose qu'ils demandent, c'est la puissance de Dieu pour pouvoir continuer à annoncer dans ces circonstances. Et on voit que dès le chapitre suivant, c'est exactement la même chose qui se produit. Il continue d'annoncer, il se retrouve devant le même tribunal, et ils ont de nouveau un échange qui est très similaire. Ils finissent cette fois-ci par être battus par les soldats de ces juges. Et quelle est leur conclusion? Chapitre 5, verset 41. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Ils se réjouissent d'être battus parce qu'ils ont annoncé la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont simplement dérangés et qu'on n'a rien à apprendre de leur témoignage et que eux étaient un peu bizarres et un peu fatigués ce jour-là, mais nous, ça va? En fait, si on revient à l'enseignement qu'ils avaient reçu de Jésus, on voit qu'ils sont simplement en train de vivre ce que Jésus leur avait annoncé. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas surpris. Jésus leur avait constamment rappelé, et en particulier, il avait rappelé à tous ceux qui voulaient le suivre, que le suivre impliquait un risque, impliquait un danger, impliquait qu'il y ait de l'opposition. Je voudrais juste, et c'est juste quelques exemples, mais pour qu'on soit un peu imprégné de tout ça, si vous reparcourez les évangiles, vous verrez que encore et encore et encore, Jésus semble presque décourager ceux qui voudraient le suivre, parce qu'il répète encore et encore ce genre de conditions que je voudrais vous en lire quelques-unes. En Matthieu 10, verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » Verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et dans ce sens-là, n'est pas digne de pouvoir me suivre, d'être mon disciple. Si on prend Luc, chapitre 9, versets 23 et 24, « Puis s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie, pour moi, la sauvera. » Luc 14, verset 33, « Il en est de même pour vous, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Et je pourrais continuer la liste encore longtemps. Alors c'est quand même pas très vendeur comme pub pour essayer de recruter des gens à le suivre. Mais Jésus était clair, il ne voulait pas laisser un message faux, une publicité mensongère. Son appel est clair, ceux qui veulent me suivre sont appelés à, d'une certaine manière, à faire un chèque en blanc, à dire « je te suis de manière inconditionnelle, quel qu'en soit le prix, même si le prix est ma propre vie ». Et peut-être que c'est important de préciser ici, par exemple lorsque Jésus dit qu'on doit porter sa croix, et il y a un vrai enjeu de mort, c'est la croix est clairement associée à la peine capitale ici, quand il parle de renoncer à sa vie, c'est pas une invitation au suicide collectif, c'est pas une invitation à aller mourir directement, c'est pas du tout l'objet. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que ce qui a la plus grande valeur à nos yeux, notre propre vie, doit être mis dans cet engagement, qu'on doit mettre aucune limite, notre engagement est inconditionnel, même jusqu'à mettre notre propre vie en jeu. Ça peut paraître complètement fou, mais si on y pense, en fait, c'est assez parallèle à ce qu'il peut y avoir lorsqu'un soldat s'engage dans l'armée. Lorsqu'un soldat s'engage dans l'armée, l'objectif n'est pas de mourir sur le front. C'est pas le rêve des soldats n'est pas de mourir au combat. Par contre, lorsqu'ils s'engagent, ils s'engagent pour une cause qui est plus grande que leur propre vie. Et ils acceptent l'enjeu. Ils acceptent de dire, ça en vaut la peine, je suis prêt à m'engager, même si ça implique de risquer ma propre vie. Et je pense que cette image est valable pour tous les renoncements auxquels Jésus appelle. Lorsqu'il parle de passer avant les relations de notre famille, lorsqu'il parle de renoncer à tous les biens matériels, c'est pas un appel à rompre tous les liens familiaux, c'est pas un appel à se débarrasser immédiatement de tous nos biens matériels, c'est un appel à s'engager à le suivre en étant prêt à mettre en jeu toutes ces choses-là, de dire que le suivre est plus important que nos relations familiales, que nos biens, que notre propre vie, et que ça peut impliquer de perdre ces choses-là et ces relations. Et justement, lorsque Jésus appelle ses disciples et nous appelle, il nous appelle en nous disant « Mais j'ai une mission plus grande que votre propre vie à vous confier. » Lorsqu'il nous appelle, ça ressemble plus à l'appel que peut recevoir un soldat pour aller au combat que de la pub pour devenir client du Club Med. On est en plein été, si vous voulez partir au Club Med, libre à vous, c'est pas un jugement sur la nature de vos vacances. Mais vraiment, la manière dont Jésus s'adresse à ses disciples, c'est pas de la pub pour annoncer une vie sans problème. C'est plutôt un appel à s'engager pour une mission qui nous dépasse, qui va au-delà de notre propre vie. Une mission qui vaut la peine de s'engager entièrement de manière inconditionnelle. Et s'il insiste sur les aspects peut-être plus difficiles de ce que ça représente de le suivre, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Si on croit que le message de l'Évangile, c'est simplement un message d'épanouissement personnel, on pourrait dire, alors il y aura un malentendu. Une bonne partie de ces paroles, les paroles de Jésus et de la mission qu'il nous donne, n'auront pas de sens. Et à peine on s'engagera dans la mission qu'il nous donne, on va se dire, mais ça fonctionne pas. C'est pas comme il nous avait annoncé. On s'est fait avoir. Alors qu'au contraire, lorsqu'il présente vraiment le fait de le suivre comme un appel à une mission qui nous dépasse, on voit bien avec les apôtres, ça ne nous apparaît pas comme une surprise de dernière minute qu'il puisse y avoir des difficultés, parce qu'on a accepté de s'engager pleinement. Suivre Jésus, c'est bien plus que de l'épanouissement personnel. C'est intégrer le peuple de Dieu. Et ce peuple, l'Église, a reçu une mission. Et cette mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à tous, autour de nous, jusqu'aux extrémités de la terre. L'annonce de cette bonne nouvelle dépasse notre simple réalité individuelle. Nous faisons partie d'un peuple qui a reçu une mission qui nous dépasse. Je vais juste vous citer deux textes qui, pour moi, donnent une belle image de cette mission que nous avons reçue. En Matthieu 6, versets 14 à 16, Jésus dit à ceux qui veulent le suivre, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Verset 16. « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père Céleste. » L'Église n'est pas une société secrète qui rassemble des élus le dimanche matin de manière un peu cachée. Nous sommes la lumière du monde, cette lumière qui doit briller pour le monde, pour que le monde puisse voir la grandeur de notre Dieu, pour que le monde puisse rendre gloire à Dieu. Et très franchement, ça dépasse n'importe quelle mission que peut recevoir un soldat dans ce monde. Et au moment de terminer son ministère sur terre, Jésus laisse ses derniers mots à ses disciples avant de retourner vers le Père. Et il leur dit en Matthieu 28, versets 18 à 20, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est cette mission qui implique un engagement total. C'est cette mission qui, lorsqu'on commence à entrer dedans, à commencer à la vivre pleinement, peut chambouler nos vies, peut amener un certain nombre d'incertitudes, d'inconforts et parfois même de réelles difficultés. C'est là où on voit que suivre Jésus, c'est pas premièrement un ticket pour le paradis ou une liste de principes moraux à suivre. Être disciple de Jésus, c'est vraiment devenir membre du peuple de Dieu, ce peuple qui représente Dieu sur terre. Nous vivons ensemble en tant que peuple de Dieu et c'est ainsi que nous pouvons répandre la lumière de Dieu autour de nous pour que le monde puisse savoir qui est Dieu et lui rendre gloire. Alors, cette belle mission n'implique pas nécessairement qu'on soit amené à mourir en martyr, n'implique pas nécessairement que ça puisse remettre en question toutes nos relations familiales. Ça n'implique pas nécessairement qu'on soit amené à abandonner tous nos biens matériels, mais ça implique nécessairement un engagement inconditionnel. Et non seulement ça implique cet engagement inconditionnel, mais au cœur même de cette mission, certaines choses font que ça peut être difficile. Comme le disait Jean-Paul il y a quelques minutes, chrétien ou non chrétien, on peut tous avoir des difficultés. Mais en tant que chrétien, lorsqu'on s'engage dans cette mission, il peut y avoir des difficultés propres à suivre Jésus. Et je voudrais en remarquer trois types de difficultés propres à suivre Jésus, au fait de s'engager dans sa mission. Premier, c'est que ça peut susciter des oppositions humaines. Deuxième, que ça peut susciter des oppositions spirituelles. Et troisième, ça peut impliquer pour nous une certaine séparation, une certaine distance avec le monde qui nous entoure. Et ça peut être une difficulté en soi. Alors d'abord, les oppositions humaines. Concrètement, le fait de se présenter comme appartenant à un autre, à un Dieu qui n'est pas un Dieu de ce monde, nous avons un maître qui n'est pas les maîtres que nous pouvons avoir sur cette terre. Et nécessairement, ça implique une concurrence. Notre maître demandera une allégeance absolue et les autres maîtres de ce monde n'aiment pas ça. On le voit avec les millions et les centaines de millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde depuis des siècles, et en particulier dans notre époque. Dans nombre de pays, les autorités et les chefs et de toutes sortes ont bien réalisé que si les chrétiens suivent uniquement leur maître, Dieu, alors ça implique une concurrence avec le pouvoir qu'aimeraient avoir certains dictateurs, certains chefs politiques, religieux. Et même si nous ne sommes pas en situation de persécution en France, on peut voir certaines tensions lorsque la République n'aime pas entendre que notre allégeance vis-à-vis de Dieu, notre attachement à Dieu dépasse notre attachement à la République, que nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux règles de ce pays. Ça n'implique pas une opposition de fait aux règles de ce pays, mais fondamentalement, appartenir à Dieu veut dire qu'il est un maître au-dessus des maîtres de cette terre. Et en particulier dans notre culture, je crois que ça vient aussi résonner avec la volonté de chacun d'être son propre maître. C'est quelque chose d'universel, mais peut-être particulièrement présent dans notre culture. Chacun veut être son propre roi, le maître de son petit royaume, et dire que Dieu est le maître de l'univers et que Dieu veut être le maître de notre vie, ça vient générer des tensions et ça peut susciter des oppositions. Et il faut pas être surpris de ça. C'est exactement comme Jésus nous l'a annoncé. Parce que nous mettons le nom de Jésus au-dessus de tout nom, d'autres personnes qui voudraient le pouvoir, et chacun d'entre nous qui voudrait l'autonomie, on peut voir ça comme une menace, de voir que Dieu veut être le maître de chacune de nos vies. Et au-delà de cette opposition humaine, on doit être également conscient qu'il y a aussi des oppositions spirituelles. Lorsque nous nous engageons pour le Dieu Tout-Puissant, alors il y a des oppositions spirituelles qui peuvent apparaître. Et que les deux, opposition humaine et spirituelle, peuvent être bien souvent mélangés et difficiles à distinguer. Je voudrais vous lire ces deux versets dans le début de l'Apocalypse. Il y a un certain nombre de prophéties qui sont apportées à des églises. Et au travers de ces prophéties, on a le regard de Dieu sur leurs circonstances. Je voudrais vous lire en Apocalypse 2, versets 9 et 10. C'est la prophétie qui est apportée à l'église de Smyrne. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Donc là, dans cette prophétie, on voit qu'il y a une opposition humaine. C'est ceux qui se disent juifs, alors on n'a pas de détails sur qui ils sont, mais certains s'opposent à cette église de manière, on pourrait dire, humaine. Mais au verset 10, « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. » On voit que derrière les oppositions humaines, cette prophétie annonce clairement qu'il y a le diable même qui veut s'opposer à l'Église et en envoyer certains en prison. Et on doit être conscients des enjeux, que si nous restons inactifs et passifs dans la mission que Dieu nous donne, nous ne sommes pas forcément une menace pour ce qui est des enjeux spirituels, mais lorsque nous commençons à vivre pleinement la mission que Dieu nous donne, il y a des défis, il y a des enjeux. Et on ne doit pas être aveugle, et c'est un enjeu en particulier pour notre vie de prière, de pouvoir s'engager dans notre vie de prière sur ce terrain-là aussi. Et j'en profite pour faire une remarque. Dans le cadre de nous projeter vers une implantation d'église, il y a des enjeux de ce type-là, et si vous voulez nous aider, notre premier besoin et notre première attente, c'est que vous puissiez nous soutenir dans la prière. Parce qu'il y a un certain combat à mener, et que chacun peut prendre part dans ce combat, que lorsque vous priez pour notre projet, pour l'implantation, vous participez à ce combat spirituel dans lequel nous savons que nous sommes dans le camp de la victoire, dans le camp qui a déjà remporté cette victoire. Et par la prière, nous saisissons pleinement cette victoire et nous nous engageons dans ce combat auprès du Dieu qui a remporté la victoire. Mais au-delà des oppositions humaines et de cet enjeu d'opposition spirituelle, et peut-être de manière plus subtile, il y a aussi une question pour nous de savoir quelle relation nous gardons avec ce monde, avec les bonnes choses qui nous entourent, avec cette vie que nous vivons. Qu'est-ce que ça implique de suivre Jésus pour ce qui est de vivre encore pleinement sur cette terre, dans ce monde? Alors, là encore, on en revient à ce que c'est de suivre Jésus. Il ne s'agit pas de l'annonce d'un épanouissement personnel et d'une manière de maximiser la manière dont nous pourrions profiter de ce monde. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas profiter de quoi que ce soit sur cette terre, mais ce n'est pas le cœur de notre appel. Nous ne sommes pas sauvés pour maximiser notre plaisir dans ce monde. Au contraire, Jésus, de manière répétée, et en particulier pour ce qui concerne les richesses, mais de manière beaucoup plus large que ça, il nous met en garde de ne pas trop nous attacher à ce monde, parce que ce monde n'est pas celui pour lequel nous vivons. Nous appartenons au royaume de Dieu, et ce royaume est encore est déjà là, mais encore à venir, et notre espoir n'est pas dans cette terre, en tout cas telle qu'elle est maintenant. Il y a un risque pour nous de nous attacher tellement au monde dans lequel nous vivons que nous pourrions du mal à suivre Jésus lorsqu'il nous appelle. Jacques le formule de manière radicale, tenant compte du fait que Jacques présente toujours les choses de manière radicale, mais au chapitre 4 de l'épître de Jacques, il dit la chose suivante: « Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. » Et c'est pas que le monde soit mal en soi, et dans ce que j'entends par le monde ici, c'est l'ensemble de la vie qui nous entoure, l'ensemble des choses et des réalités qui nous entourent. Mais c'est simplement que c'est pas notre patrie, que nous appartenons à un royaume qui n'est pas de ce monde. Et que notre héritage n'est pas sur cette terre, mais que nous appartenons à Dieu pour vivre l'éternité avec lui dans des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une réalité sans toutes les conséquences du péché et ce que ça implique. Et donc si nous voulons être libres de le suivre, libres de le rencontrer dans ce royaume, ça implique d'être prêt à renoncer aussi à l'attachement que nous avons à ce monde. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas profiter de quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que nous devons vivre reclus dans le désert, mais ça implique que si notre maître, nous demande d'abandonner certaines de ces choses, alors on doit pouvoir les abandonner. Si notre maître nous demande de renoncer à certains biens matériels, à certains plaisirs, à certaines relations, à une certaine sécurité, alors nous devons être prêts à abandonner ces choses et à le suivre. Alors tout ça peut sembler un petit peu exagéré et difficile. On peut avoir l'impression que le tableau est un peu sombre. Et mon envie ou mon propos ce matin n'est pas de vous dégoûter de l'idée de suivre Jésus. Mais c'est essentiel d'avoir ces idées claires si on veut pouvoir le suivre. Et c'est vraiment ce que je veux vous partager dans la perspective pour chacun d'entre nous de pouvoir nous préparer pour la rentrée qui vient, que ce soit ici au Tabernacle, pour nous dans cette implantation. Nous avons besoin d'avoir les idées claires pour pouvoir le suivre tel que lui, il veut que nous le suivions. Si on pense que être chrétien, c'est simplement être réconcilié avec Dieu et avoir une aide dans les difficultés pour préparer notre arrivée au paradis, alors on ne prendra pas de risque pour le suivre. Alors dès qu'il y aura des difficultés, on baissera les bras et on dira « mais c'est trop dur, je n'avais pas prévu que ce soit comme ça ». Et on finira par oublier la mission qui nous a été donnée, on finira par renoncer au fait d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde. Si nous voulons être réellement la lumière du monde, qui révèle la gloire de Dieu, on a besoin d'avoir les idées claires sur ce à quoi nous sommes appelés. Et on a aussi besoin d'avoir les idées claires sur les enjeux éternels qui sont associés à tout ça. Parce que oui, suivre Jésus peut impliquer des difficultés ici, mais c'est dans le cadre de la promesse de l'héritage que Dieu nous donne pour l'éternité. Et ces paroles ne font sens que si nous nous rappelons des enjeux éternels qui sont là. C'est ce que Jésus rappelle en Luc 9, verset 25. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd ou se détruit lui-même? Si on gagne tout ce que le monde peut nous offrir, mais qu'on se détruit soi-même, qu'on perd sa propre vie, sa propre âme pour l'éternité, alors on est passé à côté de ce qui avait vraiment de la valeur. Mais c'est uniquement en considérant les enjeux éternels qu'on voit ce qui a réellement de la valeur. Ce que Jésus dit également en Matthieu 10, c'est pourquoi « Tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père Céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père Céleste. » Jésus nous ramène à cette réalité, de dire « Mais vous allez faire face à votre Père Céleste. Et là, lorsqu'il vous reconnaîtra, lorsqu'il dira « Oui, tu es mon enfant, tu m'as servi et tu m'as suivi pendant ta vie sur cette terre », alors les difficultés pâliront, deviendront bien faibles, et on réalisera à quel point il vaut la peine de le suivre pleinement pour être reconnu par notre Père Céleste pour l'éternité. Et cela pas seulement pour nous, mais en annonçant cette bonne nouvelle, nous sommes amenés à participer à un changement éternel dans la vie de ceux à qui nous annonçons la bonne nouvelle. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais c'est ce que Paul dit aux chrétiens de Rome, dire « Mais si personne ne leur annonce cette bonne nouvelle, comment croiront-ils? Comment seront-ils sauvés? Si nous sommes sauvés par la foi, par le fait de croire en Jésus et dans le message de l'Évangile, alors s'ils n'entendent pas le message de l'Évangile, comment croiront-ils? » Et c'est cette mission qui nous est donnée, de pouvoir annoncer l'Évangile pour changer les réalités éternelles de ceux à qui nous parlons. Alors dans cette perspective-là, les sacrifices que nous pourrions être amenés à faire sur cette terre prennent tout un autre contexte, sont mis en perspective. Nous réalisons que les enjeux dépassent de loin les difficultés et le prix que nous pourrions être amenés à payer sur cette terre. Alors c'est vraiment le message que je voulais vous laisser ce matin. Nous avons reçu en tant que peuple de Dieu une mission qui nous dépasse largement, qui dépasse nos réalités individuelles, qui dépasse nos rêves, nos envies. Nous sommes amenés à vivre quelque chose qui nous dépasse. Les besoins sont immenses et c'est essentiel pour nous de ne pas devenir une forteresse, un club privé entre chrétiens qui aurait pour souci de s'assurer de vivre en sécurité jusqu'à l'entrée dans l'éternité. Au contraire, il nous a été donné une mission qui est grande, qui est belle, et qui implique de faire preuve d'audace, de prendre des risques, d'accepter de mettre notre confort en jeu, peut-être notre sécurité en jeu, de s'engager pleinement à le suivre et de le voir nous accompagner dans cette mission, comme les apôtres l'ont prié, que nous puissions avoir ce zèle pour annoncer la bonne nouvelle et que Dieu puisse nous accompagner de sa puissance, confirmer l'annonce de l'Évangile par des miracles, par des guérisons, par sa puissance qui vient nous équiper pleinement à être ses soldats dans la mission qu'il nous donne. Que ça puisse être une réalité ici au tabernacle, que ça puisse être une réalité pour nous dans la plantation et que ça puisse être un sujet de prière pour chacun d'entre nous, que Dieu nous donne la force et le zèle pour entrer pleinement dans la mission qu'il nous donne. Je vais terminer par la prière. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de la confiance que tu nous prêtes. Seigneur, bien souvent nous retournons à regarder nos propres intérêts, nos propres enjeux. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons nous souvenir de ton plan merveilleux, de l'appel que tu fais résonner dans nos vies à te suivre, à devenir membre de ton peuple qui a reçu cette mission si glorieuse d'être tes représentants sur cette terre, de te rendre gloire et d'amener les nations de toute la terre à réaliser qui tu es. Seigneur, viens-nous en aide, remplis-nous par ton esprit pour que nous puissions avoir toute la puissance pour annoncer cette bonne nouvelle. Seigneur, permets-nous de réaliser les perspectives éternelles qui sont en jeu, que nous puissions voir également les difficultés par lesquelles nous pourrions passer, comme faisant partie de ce chemin qui nous amène à vivre pleinement l'héritage et la bénédiction éternelle que tu nous offres et que tu veux offrir à tous ceux qui mettront leur foi en toi, Seigneur. Seigneur, viens au secours de notre foi et permets-nous d'accomplir pleinement la mission que tu nous donnes.